chapitre 8.
Si vous voulez vous joindre avec moi, cherche le Seigneur pour le dimanche après-midi. On a notre frère qui va amener une fois par mois les messages le dernier dimanche du mois, donc dimanche prochain. Ça va être frère, vous pouvez prier pour lui, que Dieu le dirige, la langue française et tout ça, pour qu'il s'habitue aussi de plus en plus à amener la parole de Dieu en français, puis de façon régulière. Puis ça va même augmenter, là. On commence comme ça, mais déjà, il faisait un peu avant, mais on continue pour 2024. Puis pour moi, ben, cherche la direction du Seigneur pour ce que Dieu veut qu'on considère ensemble dans sa parole le dimanche après-midi. J'ai certaines choses que, sur lesquelles je prie, j'ai pas encore une paix, là, la boum, tu sais, comme, OK, c'est ça que le Seigneur veut. Mais le Seigneur va diriger. J'ai deux dimanches, parce que dimanche prochain, c'est Frère Côte. L'autre d'après, c'est le repas du Seigneur. Fait que, c'est ça.
Amen.
Romains 8. J'ai dit Romains 8? Vous êtes là? Good. La semaine passée, on a vu les versets 18 à 27. Là, on va voir 28 jusqu'à la fin. Et je veux qu'on prenne le temps de le lire au complet, parce qu'après ça, on va regarder verset par verset, mais je veux qu'on se donne la saveur au complet de ça. La culmination de la révélation de l'Épître aux Romains. Et j'irais jusqu'à dire de l'histoire rédemptrice. Tout est là. C'est comme les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est là. OK, c'est pas les seules, là, comprenez, mais dans le corps du développement de Romains, c'est le mont Everest, c'est le sommet. Là, aujourd'hui, là, on met les pieds sur le top de la montagne. OK? Vous êtes là, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces versets sont connus, bien connus. Il y en a que c'est vraiment comme, par exemple, verset 18. C'est un verset qui est des fois qui est affiché sur les murs. Sont familiers, mais j'espère qu'ils ne vont jamais devenir ordinaires ou communs. Parce qu'ils sont extraordinaires, hors du commun. Et ils doivent toujours garder cette fraîcheur, cette puissance dans nos vies. Parce que c'est l'apogée vraiment de la révélation dans Romains et de l'assurance que Dieu donne. Tu sais, on n'est pas trop certain, on peut être chancelant. Si on va là, ça va nous ancrer solidement, inébranlable, dans les promesses, la révélation de Dieu et son plan rédempteur merveilleux. En fait, ce qu'on considère aujourd'hui, c'est la conclusion ineffable des chrétiens en sécurité. Quand on regarde tout ce qu'on a en Jésus-Christ, ce qu'on est, on arrive à cette conclusion ineffable, ça dépasse les mots d'un chrétien qui est en sécurité, en Jésus, en lui. Donc, on va voir ensemble avec ce texte-là trois glorieuses conclusions à tirer des versets qu'on vient de lire. D'abord, au verset 28, on a la glorieuse conviction du chrétien concernant toute chose. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les premiers mots, nous savons. Nous sommes convaincus. Nous ne sommes pas chancelants. On est solide sur le fait que toute chose qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour son bien. Tout ce qui lui arrive, c'est pour son ultime bien, ou pour le dire autrement, peut-être son bonheur. C'est la bénédiction du Seigneur. Tout ce que Dieu fait concourir dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est parce que ça fait partie de la bénédiction de sa rédemption, de la vie avec Jésus-Christ. Et ça, mes amis, ça nous distingue de tout le reste du monde qui souffre sans espérance. Parce que on le voit, le chapitre 8, c'est pas un chapitre idéaliste qui veut renier les difficultés du monde. Non, ça parle de la lutte avec le péché, la souffrance dans ce monde. Puis, OK, on l'a vu, hein, on l'a vu ensemble dans le chapitre 8. Mais ici, on voit comment considérer toutes ces choses-là à la lumière de ce qu'on est en Jésus-Christ, de ce qu'il a fait de nous, de ce qu'il a fait avec sa rédemption extraordinaire. Parce que, comme tout le monde, les chrétiens sont frappés de maladies, de difficultés, d'épreuves. Ils ont des problèmes relationnels, ils ont des problèmes économiques. On vit les mêmes choses que le reste du monde vive. Mais la différence, c'est qu'on ne réagit pas avec la même espérance. Quand on est malade, notre espérance n'est pas dans le médecin. On prie pour notre médecin, puis on croit que Dieu peut utiliser un médecin, mais notre espérance est dans le Dieu qui est au-dessus du médecin. Quand on a des problèmes financiers, des circonstances, la santé, les choses qu'on peut vivre, notre espérance n'est pas dans ce que le monde va avoir comme objet d'espérance. L'objet de notre espérance, c'est la personne de Dieu. Le Dieu qui est souverain, le Dieu qui est bon, le Dieu qui est vivant. Tout ce qui est au sujet de Dieu, c'est ça qui fait qu'on est confiant, qu'on est en sécurité, qu'on est calme. Même si des fois les pensées peuvent s'agiter en foule au-dedans des autres, les consolations de Dieu, comme ce qu'on vient de lire, réjouissent notre âme. C'est ça la différence d'un enfant de Dieu versus quelqu'un qui souffre sans espérance. Et cette conviction-là, c'est quelque chose que Dieu veut travailler dans notre cœur. Est-ce que, en ce moment, ce que tu vois, ce que tu vis, tu le vois à travers le spectre du Dieu qui les permet dans ta vie? C'est Dieu qui les fait concourir, c'est Dieu qui les orchestre. Le mal comme le bien, ce qui est agréable comme ce qui est désagréable, ça vient de Dieu dans sa sagesse, dans son amour. C'est pas comme si Dieu dit « Oups, là j'ai échappé celle-là, j'espère qu'il va passer au travers correct. » Puis Dieu n'est pas surpris, puis c'est pas comme « Oups, j'ai pas fait exprès. » Il n'y a pas d'accident avec Dieu. Tout est sous son contrôle. Il n'y a pas de panique dans son cœur avec ce qui nous arrive. Nous, on peut paniquer, mais lui, il n'est pas du tout pris au dépourvu. Non seulement avec ce qui nous arrive, mais même la prochaine épreuve, la chose qui peut être en avant de nous autres. Et ça, je dirais que lorsqu'on est imbibé de cette vérité, ça nous calme, ça nous donne la paix, ça nous donne même la joie. Pas parce que la circonstance a changé, mais parce que le Dieu qui est dans ces circonstances, lui, ne change pas. Parce que c'est ça notre angle. Dieu est inchangeable. Il dit, l'Éternel, ça dit dans Malachie 3:6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est immuable, inchangeable. Il est toujours le même, toujours fidèle, toujours bon, toujours vrai. Il ne veut jamais nous faire quelque chose qui va nous faire du mal. C'est ça ici l'idée de la conviction derrière toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici, c'est une conclusion après tout ce qui a été dit, là, parce que l'Esprit intercède, on vous rappelle la semaine passée, le contexte de la souffrance, puis la création, nous, puis même le Saint-Esprit, on soupire tous après la rédemption, hein, parce qu'on est encore pris dans un monde tout brisé. Mais on sait que même dans ce monde tout brisé, Dieu transforme le mal en bien. Il prend toutes les affaires de ce monde tout scrapoute, puis il fait quelque chose de beau avec. C'est une mosaïque. C'est une œuvre d'art. Donc, la première conclusion profonde du cœur ici, c'est que face aux luttes intérieures, aux souffrances extérieures, que ces choses vont partir d'un dessein bienfaisant, d'un plan. Il y a quelqu'un derrière. C'est pas n'importe qui, c'est le Dieu bienveillant. OK? Ça fait du bien. Déjà, là, c'est pour ça que je vous dis, là, on n'est pas loin du sommet. on arrive, là, mais ça commence à sentir pas mal le triomphe. Et maintenant, on peut se demander, ouais, mais là, c'est quoi cette appel? C'est quoi ce bien ultime? On a la réponse dans les versets 29 à 30. C'est le glorieux but de Dieu avec ses enfants. Verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je veux qu'on voit ici deux choses bien importantes. D'abord, il y a des mots là-dedans. J'espère que les mots, quand vous les entendez, ça ne vous rend pas inconfortable. Préscience, prédestination. Ah non, je ne peux pas comprendre ça, puis c'est quoi ça veut dire? Puis non, laissez pas vos raisonnements humains de là, ça veut dire quoi? Puis laissez pas les raisonnements vous dérober de la beauté de ces choses. Dieu, là, c'est le Dieu de toute éternité. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Puis, on n'est pas comme un accident dans le plan de Dieu, puis oups, il nous est arrivé, il se fait là, lui. Hey, je ne l'avais pas vu arriver, celle-là. Comprenez-vous? C'est pas comme ça que ça marche. Puis ici, l'idée, là, c'est que, OK, toute chose concourt à notre bien. Puis là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais préscience, élection, prédestination. C'est pas le sujet du message aujourd'hui, mais dans l'ordre, c'est ça. Parce qu'on apprend dans 1 Pierre qu'on a été élu selon la préscience de Dieu. Fait que préscience, c'est foreknowledge, connaître d'avance. Élection, c'est le choix. Puis prédestination, c'est le but. OK? Sans rentrer dans les détails de ça, puis là-dedans, bon, en fait, j'ai une discussion intéressante où vous pourrez parler de provisionnisme avec Maxime. C'était intéressant. Puis, tu sais, parce qu'il y a des discussions théologiques là-dessus, puis, mais c'est pas là-dessus que je veux m'arrêter. C'est vraiment sur le fait que tout ça nous amène, parce que ce qui est présenté ici, ça dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. OK? Fait qu'on peut dire, OK, je suis pas en genre dans le plan de Dieu, il m'a connu d'avance, de toute éternité. OK, mais il les a prédestinés. Je veux ici, le mot là, c'est pro-horizo. C'est-à-dire horizon, là, c'est comme, il a délimité l'horizon, la limite, la frontière à l'avance. OK? Puis c'est quoi cette frontière? Dieu nous a connus de toute éternité dans ses desseins éternels et insondables. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Autrement dit, OK, c'est dur de tracer jusqu'en arrière tous les plans éternels de Dieu, mais le but ici qu'il nous donne, là, c'est qu'il veut, le but ultime, là, l'horizon final, quand on regarde au loin, c'est d'être comme Jésus. Ça, c'est le point majeur de ce qui est enseigné ici. C'est-à-dire, Dieu, il a un but avec nous. Il ne nous a pas juste sauvés pour nous donner un ticket au ciel, pour nous donner une vie heureuse ici sur terre. Non, il nous a, le but du salut est christocentrique. Amen. Jésus, c'est le premier-né, ça dit, c'est à la fin ici. Afin que le Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, Jésus, c'est l'archétype, c'est le modèle parfait, si je peux dire, là. C'est la perfection, puis Dieu nous amène à être semblables à lui. Puis ça nous aide dans ce sens-ci. Le but glorieux de ce qu'on vit. Quand vous avez quelque chose, là, Dieu a un but précis par rapport à ça. Ça va nous aider à passer à travers ce qu'on pense. Dieu veut former Christ en nous. Il veut que le caractère, l'esprit, la beauté de Christ soit manifesté à travers nous autres. Fait qu'il nous envoie des épreuves, il nous envoie des bénédictions, il nous envoie ce que lui a décidé de nous envoyer parce qu'il veut que Jésus soit manifesté à travers nous. On va le dire dans d'autres mots, la mort travaille en nous afin que la vie de Jésus soit manifestée à travers nous. Dieu nous envoie des choses, puis là, ça nous travaille. C'est la communion des souffrances de Christ. C'est comme Jésus est venu dans ce monde, il était un homme de douleur accoutumé à la souffrance, OK? C'est dur dans ce monde-ci. Jésus est venu dans un monde dur et hostile. On a peur à ça parce que Dieu veut nous rendre comme son Fils bien-aimé. C'est ça le but. Fait que, tu sais, quand on dit, là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, bien, le bien, là, suprême d'un enfant de Dieu, c'est pas qu'il soit plus malade, c'est pas qu'il ait tout l'argent qu'il a besoin dans son compte en banque, puis je pense pas que ça... Besoin, là, c'est très élastique comme notion, là. Mais c'est pas les choses qu'on pourrait penser humainement. Le bien suprême d'un enfant de Dieu, c'est d'être comme Jésus. Quand il nous arrive des choses, pour donner des exemples concrets, Dieu veut travailler la patience de Christ dans mon cœur. Quand je suis éprouvé par un frère, une soeur, tannante, qui vient me chercher du mauvais bord, Dieu veut manifester l'amour de Christ à travers ça. Quand j'ai peur avec des circonstances, l'anxiété, Dieu veut que Christ, ma paix, soit manifesté à travers. Voyez-vous, il y a un but, c'est personnel, c'est tout. Christ qui est la manifestation complète de Dieu, c'est ça qui fait que, gars, là, je vois ce que Dieu est en train de manifester la personne de Jésus, son œuvre dans ma vie. C'est pas au hasard, c'est très précis. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est quoi le but? C'est Jésus. C'est d'être comme Jésus. Okay? C'est pas une conformité extérieure, c'est l'œuvre intérieure du Saint-Esprit qui porte le fruit. C'est pas comme si, alors je vais essayer d'être comme Jésus, là, parce que là, c'est ça que ça dit là. Non, c'est le fruit de la foi, l'humilité dans notre Seigneur, puis ça va produire comme fruit qu'on va être, on va être de plus en plus semblable à l'image de son Fils. Puis d'ailleurs, ceux qui prennent des notes, il y a une référence parallèle dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, sur ce processus de sanctification de plus en plus à l'image de Christ. 2 Corinthiens 3, on peut commencer au verset 17. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Beau verset sur la divinité de Jésus, de l'Esprit. « Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Regardez verset 18. « Nous tous, dont le visage découvert. » 2 Corinthiens 3, 18. « Dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » L'image de Jésus. De gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Dieu permet des épreuves pour travailler une facette du caractère de Christ, son caractère glorieux, sa personne glorieuse. Il travaille ça de gloire en gloire. Il ne fait pas tout d'un coup, là, boum, là, t'es comme Jésus. Non, c'est ça qu'il fait à travers tout ce qui concourt dans notre vie, à notre bien. Il forme Jésus comme un sculpteur façonne sa sculpture, puis là, oups, peut-être, t'enlèves ça en par rapport, puis là, enfin, hein, on voit Jésus dans ses enfants. OK? Bon. Maintenant, dans le verset suivant. Parce que là, on peut penser au présent. OK, Jésus travaille, Dieu travaille pour me former à l'image de Jésus avec ce qui m'arrive en ce moment, dans le présent. Puis bon, on peut dire le passé aussi, là, parce que Dieu a commencé ça au moment qu'on était sauvés. Mais verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il y a une séquence ici d'événements. Du passé au moment du salut, le salut, la justification. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, justifié, c'est une expression de quand on est sauvé, là, on est justifié par la foi, là, on est revêtu de la justice de Christ, quand on a reçu la justice de Dieu en Jésus-Christ. On est d'accord, ok, c'est tout au passé, c'est à faire là, n'est-ce pas? T'sais, si on est sauvé, là, on a été appelé, on a été justifié, ok, c'est beau, c'est fait. Mais dans le verset, comment ça finit? Ceux qu'il a glorifiés. Savez-vous qu'on est déjà glorifié selon ce verset-là? Puis on peut dire, ben là, il me semble que... Oui, parce qu'on est assis dans les lieux célestes, on est en Jésus-Christ, on est... La pleine rédemption, on l'a déjà, mais on en a, comme on a vu la semaine passée, nos corps sont un peu retardataires. Nos corps sont encore asservis, sont encore sous l'esclavage de la servitude, de la corruption. OK? Mais au point de vue de Dieu, pour lui, c'est déjà tout réglé. Là. On est déjà dans la gloire, puis tout ça, puis on n'en a pas. On a les arts de l'esprit, la mise de fond du Saint-Esprit. On est scellé par l'esprit de promesse. C'est le gage qu'il nous est donné en attendant. Mais la pleine rédemption, on ne l'a pas encore, mais aux yeux de Dieu. C'est tout réglé, là. C'est pas « ouais, j'espère qu'il va... » C'est un beau verset sur l'assurance du salut, sur le fait que le salut, là, c'est quelque chose de complet. C'est pas « hey, j'espère que lui, il va se rendre jusqu'à la fin. » Sans, il y a un peu de misère, puis... « Et lui, c'est par la peau des dents. » Il n'y a pas d'affaire de même dans une vie chrétienne, là. T'es sauvé. Je veux dire, pour Dieu, là, t'es déjà dans le ciel, t'es déjà glorifié, t'es déjà dans la gloire. Ça, c'est précieux. Je veux pas passer à côté parce qu'on se dit « ah, c'est le fun, toutes choses concourent à mon bien, mais... » Tu sais, des fois, j'ai de la misère, des fois, je me décourage moi-même, des fois, je me dis, coudonc, ça fait donc bien dur mon affaire. Ben, Dieu, il n'est pas découragé de nous autres parce qu'il nous voit déjà glorifiés. Puis en passant, il n'est pas surpris des détours, puis des. Tu sais, ça dit qu'on bronche tout de plusieurs manières. Là. Lui, il n'est pas surpris. Là. Il voit nos faiblesses, il sait comment qu'on est, il sait qu'on n'est que chair. Donc, c'est très rassurant, ces versets-là. En tout cas, pour moi, là. Peux-tu avoir un amen?
Amen!
Ah, good! Yeah. Les Américains, can I have a amen? Amen! Mais là, on a dit amen! Et pas là, la petite, elle avait dit amen, elle, la petite.
Amen!
Maintenant, elle avait sorti un, je me rappelle plus, c'était quand, là. Elle avait sorti un amen, la petite Lydia. OK. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est une conviction que le Seigneur travaille dans nos cœurs. On peut dire, c'est ça, par rapport à toute chose qui concourt à notre bien, le but, ce qui est pour notre bien, c'est d'être comme Jésus, puis ça m'amène à la glorieuse espérance des chrétiens en sécurité. C'est les derniers versets 31 à 39 qu'on va passer quand même assez rapidement, mais on les a lus, mais on va les regarder un par un. Comprenez bien ici là, que quand on parle d'espérance, là, bibliquement, là, c'est pas « j'espère que ça va arriver » comme « ben, 50% des chances ça arrive, 50% ça arrive pas », non. L'espérance biblique, c'est une ferme attente de ce qu'on sait qui va arriver. C'est que c'est pas arrivé, on l'attend dans ce sens-là qu'on l'espère, mais c'est pas « on espère que ça va arriver, puis ça va peut-être pas arriver », là. C'est certain que ça va arriver, c'est juste que c'est pas encore arrivé. C'est ça le sens d'espérance biblique. Il y a pas une question de « ça va-tu arriver », c'est juste, c'est plus une question « c'est pas encore arrivé ». Tu sais, quand ça parle de l'espérance du salut, c'est pas « j'espère que je vais être sauvé ». Non, non. Je suis sauvé, mais je suis dans l'espérance que je vais en avoir toute la plénitude, tous les bénéfices plus tard. Comme on a vu la semaine passée, là, notre fameux corps et tout ici-bas, là, on est encore assujetti. On soupire, hein? Mais c'est ça. Donc, l'espérance glorieuse des chrétiens en sécurité. Et en passant, l'assurance du salut, la certitude... du fait qu'on est sauvé, c'est important, on le voit ici. 1 Jean, c'est une lettre au complet, là. C'est la plus longue des épîtres de Jean. C'est écrit à ce sujet-là, donc c'est pas un sujet sans importance, parce que qu'est-ce qui arrive quand on est éprouvé, puis qu'on arrache? On doute. Puis Dieu nourrit notre foi en disant, non, non, sois pas dans le doute, c'est moi qui te donne les promesses, ça repose sur moi, ma personne. Sur mon œuvre, ce que moi j'ai fait. Puis ça, se l'approprier, c'est tellement important. C'est ce qui nous fait passer au travers. Parce que c'est facile de douter de nous. T'sais, on voit notre faiblesse, puis on se connaît nous-mêmes. Hein? On se connaît peut-être pas aussi bien que Dieu nous connaît, mais on sait qu'on n'est pas très impressionnant. Là. On peut essayer d'impressionner les autres, mais nous, on sait, hein, dans le fond de notre cœur. Mais c'est bon parce que ça nous montre que l'objet de notre confiance, de notre assurance, de notre espérance, n'est pas en nous, mais en Dieu. OK, la certitude, l'assurance du salut. Et ce qu'on voit ici, là, c'est facile à délimiter parce que il y a 3 catégories distinctes ici, dans les versets 31 à 39, de faits indéniables. Là, on parle là, vraiment des affaires que c'est non discutable. Dieu l'a dit, c'est écrit, c'est réglé. OK? Fait que là, on va voir ça. D'abord, il y a 4 questions qui prouvent qu'on n'est pas condamné par Dieu. Les versets 31 à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu ne peux pas être condamné si Dieu est pour toi. Tu peux être condamné par les démons de l'enfer, par Satan lui-même, par toute la terre entière. Mais si Dieu est pour toi, c'est qui peut être contre toi? Il n'y a pas de condamnation. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré... Pour nous tous, comment nous donnera-t-il aussi avec lui, toutes choses avec lui? C'est-à-dire, si le Fils est mort, s'il a donné sa vie pour nous, c'est-à-dire, il n'y a rien encore là qui peut tenir pour notre condamnation. Il s'est livré lui-même pour nous. On est héritier de Dieu, on a été racheté à un grand prix. On ne peut pas être condamné. Le Fils lui-même est mort à notre place. Okay? On est sur du solide, là. Là, on est sur le roc inébranlable. Voulez-vous qu'on continue? 33. C'est merveilleux. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ici, il y a 2. L'élection, c'est ça, on parle encore là. On n'est pas hasard dans les plans de Dieu. Il ne faut pas perdre la beauté de ça, OK? Puis aussi, c'est Dieu qui justifie, c'est pas moi qui dis « Ok, moi je suis une bonne personne, puis je me déclare juste. » Non, non, c'est Dieu qui dit « Je te déclare juste sur la base de ce que Christ a fait pour toi. » Puis du fait que tu as accepté la justice de Christ, ok? Fait que, encore là, je vous dis, là, ça prouve qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis finalement, le verset 34, « Qui les condamnera? » Ça, c'est nous, là. « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède. » Hey, il met le paquet, là. Christ est mort, il est ressuscité, puis là, il est à la droite de Dieu, puis il intercède. Qui peut condamner quelqu'un de même, là? Personne. Fait qu'ici, là, c'est clair, il n'y a rien qui peut nous condamner si Dieu nous a justifiés. C'est tellement rassurant, ces versets-là. Donc ça, c'est la première catégorie des questions qui prouvent qu'on n'est pas condamné. Ensuite, les versets 35 à 37, c'est un rappel qui nous rassure que nous sommes du bon côté. Ben, des fois, on peut se dire, hey, « Mais ça, tout le monde a tout le fun, puis moi, je suis un petit bizarre dans mon coin, un petit chrétien à lunettes. » Comprenez-vous? En plus, non, mais les chrétiens, là, à l'époque, là, pensez au début là, du christianisme, là, c'est une gang de mavericks, là, c'est une gang d'isolés que, tu sais, t'avais la grande, le grand groupe des païens qui était la majorité. Puis là, t'es bien sûr de leurs affaires, puis tout ça. Il y avait les juifs qui étaient, hey, nous, on connaît le seul vrai Dieu, puis là, les petits chrétiens dans le milieu étaient là, ouais, nous autres, on fait comme nulle part. OK? Ben, les versets qui sont là, c'est pour nous dire, non, non. Tu fites exactement dans le plan de Dieu, tu es un enfant de Dieu. C'est un rappel pour nous rassurer qu'on est du bon côté. Verset 35. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et là, les questions qui sont là sont très, très pertinentes. Serait-ce la tribulation? C'est pas un mot au hasard que, bon, ben tiens, je sais pas trop quel mot mettre. Non, le Saint-Esprit a mis ça. Pourquoi? Parce que les chrétiens vivaient des tribulations quand ça a été écrit. Puis savez-vous quoi? Dans l'histoire de l'Église, les chrétiens ont été persécutés. Y a-t-il quelqu'un qui a fait un cours d'histoire de l'Église ou qui a lu sur l'histoire de l'Église? Ou qui a lu le livre de Fox, là, des martyrs, là? Je veux dire, c'est une histoire sanguinaire, l'histoire de l'Église. Les chrétiens, comme Jésus, ont payé beaucoup de prix de proclamer Christ, puis la foi, puis de vivre la foi. Et donc, est-ce que c'est une preuve qu'on est séparé de Dieu? Non. L'angoisse, la persécution. OK, on va juste regarder un par un. D'abord, quand ça parle, bon, c'est ça, au début, là. Voyons, j'ai perdu mon... Qui nous séparera de l'amour de Christ? Bon, ça, c'est la tribulation. Ça, c'est un mot général. Mais plus spécifiquement, les angoisses. Les angoisses qui viennent par l'instabilité. L'insécurité d'être dans, tu sais, une situation, on dit, c'est une situation précaire, tu sais, quelqu'un qui se retrouve sans domicile fixe, tout ça. Savez-vous que c'était le lot? Puis c'est encore le lot de beaucoup de chrétiens dans le monde, les pays persécutés, puis tout ça. Ça aurait pu être notre lot aussi si ça avait continué sur la même ligne qu'on était parti. Hey, les gens perdaient leur emploi, puis bon, c'était pas à cause qu'ils étaient chrétiens, mais beaucoup, c'est à cause qu'ils étaient chrétiens qui refusaient d'embarquer dans le. OK? Ça parle ensuite de. Persécution. OK? Verset 35, sur Ars, la tribulation ou l'angoisse ou la persécution. La persécution, ça peut être autant, tu sais, la persécution physique, verbale, tu sais, sociale, être mis au bas de la société. Est-ce que ça prouve que Dieu m'a rejeté? Non. La faim, ben, je pense que la faim, c'est vraiment la conséquence de, tu sais, si tu as perdu ta job parce que tu es chrétien, là. Il y a une des lettres de l'Apocalypse, qu'il y avait des guildes, on appelle ça des guildes de commerçants, qui étaient païennes, et donc il fallait, comme commerçant, pour être dans la guilde, c'est comme une association de commerçants, là. Tu sais, il y a ça, là, des fois dans le Vieux-Québec, les commerçants du Vieux-Québec, ou de la rue Cartier, mettons, ils s'associent ensemble, bien, il y avait ça à l'époque, puis vu que c'était des païens, bien, des fois il y avait toutes sortes de culture, de gestes, de choses païennes qui étaient imposées pour faire partie de la guilde, ben les chrétiens, ils ne voulaient pas rentrer là-dedans. Ou ils ne voulaient pas donner la pincée d'encens pour dire César et Seigneur. Ben, il y avait des conséquences à ça. Ils étaient privés de leur gagne-pain. Ils étaient des fois déshérités. Ils avaient tout. Fait qu'ils souffraient de la faim à cause de leur foi, la persécution, la faim. La nudité, le péril, c'est un peu la même affaire. tu sais, si t'as pas d'argent, puis qu'à un moment donné, du linge, là, ça l'use, là. Puis que t'as pas d'argent, ou tu sais, que tu te retrouves dans la rue, là, ben là, ton garde-robe, il est plus là. Puis à l'époque, les gens avaient pas de garde-robe. Tu sais, dans la Bible, voyez-vous, les vêtements, c'est précieux dans la Bible. Ça dit des vêtements de rechange, quand on lit, là. Parce que les vêtements, là, c'est... Nous, des vêtements, il y a des friperies, puis ça nous sort par les oreilles, des vêtements, là. Mais ça a pas toujours été le cas, là. C'est précieux, des vêtements, c'est des tissus, ça prend du temps. C'est juste que c'était plus durable à l'époque, mais pareil, tu sais. Le péril, être en péril, pensons à Paul, 2 Corinthiens 11. Vous voulez voir les périls de la foi, là? En naufrage, en péril parmi les Juifs, parmi les faux frères, puis à cause de sa foi, il s'est retrouvé dans toutes sortes de situations rocambolesques. Pourquoi? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu, qu'il vivait sa foi, il était exposé à toutes sortes de périls, de tribulations. Et même à l'épée, comment sont morts tous les apôtres sauf un, tous de mort, sont faits tuer. Quand on dit l'épée, c'est pas obligé que c'était obligé que ce soit une épée, mais que il y en a qui ont été crucifiés. Donc, on voit tout ça. Ce qu'il faut voir ici, c'est que comment ils ont été traités comme des malfrats, comme des criminels, comme des méchants, comme les gens dont la société fait bien de se débarrasser, en aucun cas, d'aucune manière, ça prouve qu'ils étaient du mauvais côté. C'est l'inverse. C'est parce qu'ils étaient enfants de Dieu, c'est parce qu'ils n'étaient pas de ce monde. Ils étaient comptés comme les balayures de ce monde, mais le monde n'en était pas digne. C'est pour ça qu'ils ont vécu comme ça, puis qu'ils ont tout souffert ces choses-là. Et Paul, au verset 36, cite le psaume 44, verset 23, où est-ce que ça dit « Selon qu'il est écrit ». Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. D'abord, on apprend que c'est pas d'hier que les enfants de Dieu sont persécutés, parce que de l'époque des psaumes, déjà, il y avait de la persécution de ceux qui étaient des authentiques croyants en l'Éternel. Mais ici, c'est cité comme étant la norme. Parce que quand ça dit « selon qu'il est écrit », là, c'est pour dire... Ben, ce qui vous arrive, c'est pas extraordinaire. Ça arrivait au sein de l'Ancien Testament. Puis, c'est selon les Écritures. Un enfant de Dieu, là, il est regardé, on lui met à mort tout le jour, puis il est regardé comme une brebis qu'on amène à la boucherie. C'est comme, ah ouais, c'est ça la norme. Hey, ça prêche, hein. On fait une campagne d'évangélisation, là. Venez à Jésus, on va vous mettre à mort tout le jour, puis on va vous regarder comme des brebis qu'on jette à la boucherie. Qui veut venir à Jésus? Voulez-vous qu'on commence ça? Mais ça paraît ironique, mais c'est pour ça que les gens venaient au Seigneur à l'époque. Parce qu'ils voyaient les gens qui subissaient ça, puis ils disaient « Wow, ça c'est une foi surnaturelle, ça c'est pas une religion vide et pas de sens. » C'est des gens qui sont prêts à subir ça pour ne pas renier leur sauveur. Celui qui dit leur Dieu, leur sauveur, wow, ça doit vraiment être le vrai Dieu finalement, puis un vrai sauveur. C'est comme ça que la chrétienté a conquéri le monde pour qu'il a fait en sorte que ce qu'on appelle l'Occident a été christianisé. C'est ça, le secret. Et c'est qui a dit ça, donc? C'est, en tout cas, un des, ce qu'on appelle père de l'Église. Le sang des martyrs a été la semence de l'Église. C'est qui a dit ça? Il est connu, là. Personne ne peut m'aider ici? Le sang des martyrs, hein?
Saint-Augustin.
Non, c'est pas lui. Non, c'est avant lui.
C'est pas...
Ah, Justin Martyr! C'est Justin Martyr, oui. Hey, j'ai manqué de faire une joke. Pas de parenté avec l'autre Justin qu'on connaît. Je vais m'en venir là-dessus. OK. Juste par rapport à ça, là... Les enfants de Dieu, on ne devrait pas se surprendre d'être persécutés, de ne pas être populaires. Parce que ça dit que ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ, pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Une belle promesse de la parole, hein? Hey, OK, on va prêcher avec ce verset-là, puis on va dire, « Maintenant, là, si vous donnez à votre vie avec à Jésus, là, vous allez être persécutés! » Hey, moi, je pense qu'on va être populaires, on va faire fureur. Mais le pire, là, c'est que c'est ça le paradoxe. La vie chrétienne, ça n'a pas de bon sens. Savez-vous quoi? Les gens n'avaient pas peur de le vivre, de le proclamer, puis les gens venaient au Seigneur par centaines. Ça, c'est pas la sagesse humaine. Ben justement, c'est ça. L'œuvre de Dieu, là, il n'y a rien de naturel et d'humain là-dedans. C'est surnaturel, c'est surhumain, c'est divin. Puis remarquez le verset 37 ici, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Les chrétiens sont plus que vainqueurs parce que celui qui nous a aimés, c'est celui qui fait tout concourir à notre bien, c'est celui qui nous donne toutes ces promesses-là. C'est par une personne qu'on est plus que vainqueur. Pas parce qu'on est spécial, c'est pas parce qu'on est fort. C'est que dans notre faiblesse, on a celui qui est plus que vainqueur. On est plus que vainqueur par celui qui a vaincu tous ses ennemis. N'est-ce pas merveilleux? C'est extraordinaire. Et c'est triomphal, je dirais. Mais là, on va voir, ça termine là. Là, là vraiment, on avait un pied sur le top, là, on met le deuxième pied là, sur la cime. Là, on est au sommet, on fait des babayes à tout le monde. Les 10 négations qui prouvent qu'on ne peut pas et qu'on n'est pas et qu'on ne peut pas être séparé de Dieu. C'est des choses que ça nie ce qui pourrait venir entre nous et Dieu finalement. Les versets 38 et 39. L'idée ici, là, avant qu'on les lise, c'est que Paul exprime ici l'idée qu'il n'y a rien, on a l'assurance, on a la conviction qu'il n'y a rien qui serait capable de nous séparer. Tu sais que, mettons, dans les 10 affaires-là, quelqu'un veut essayer de nous séparer de l'amour de Dieu, là, essaye-toi, mon grand, ça ne va pas marcher. Il n'y a rien qui est capable de nous séparer de l'amour de Dieu. On lit, OK? Verset 38, quand j'ai l'assurance que, OK, première chose, ni la mort. Si on meurt, est-ce qu'on va être séparé de Dieu? Non, on va rencontrer Dieu par la mort, OK? En fait, ceux qui croient ne vont pas voir la mort, ne vont pas voir la séparation avec Dieu, ils vont aller directement dans la présence de Dieu. Ni la mort, ni la vie, tu sais, les choses dans cette vie, ce que je peux vivre, OK? Ni les anges, ni les dominations, c'est tout le domaine angélique. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, fait que pas besoin de s'inquiéter, parce qu'il n'y a rien de ça qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les puissances, encore là, on parle, là, c'est pas les puissances angéliques, mais c'est les puissances de ce monde. Le roi, tu sais, qui a décrété quelque chose. Tous les chrétiens, vous allez être jetés dans la fosse aux lions. Ça ne va pas nous séparer de l'amour de Dieu. OK? Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Là, hauteur, profondeur, puis ça, fouillez-moi, là. OK, je veux juste être honnête, là. Je sais pas comment ça pourrait nous séparer, mais ça peut pas, OK? Tant que quand tu montes très haut dans une échelle, puis tu tombes sur la tête en bas, ça peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas pourquoi il dit autant, tu sais, c'est les dimensions, là.
Peut-être comme dans le psaume, tu sais, que même si je vois la fond de l'océan,
mais
il est encore...
OK, dans le sens de toutes les places, tu sais, au plus haut sommet jusqu'au plus profond abîme. Okay.
Il y a une traduction qui dit ben, ni les forces d'en haut ni les forces d'en bas.
Ah!
Traduction un peu libérale. Là,
ouais.
Mais c'est intéressant l'idée.
C'est un peu un commentaire. Ben, en tout cas, ni aucune autre créature, ça pourrait aller dans le sens. Fait que les créatures en haut, les créatures en bas, ou n'importe quelle créature. Dans tout ça, là, il n'y a rien qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen certain, hein? Hey, ça c'est merveilleux. Ben, l'idée vraiment ici, là, c'est des choses que Dieu nous donne pour qu'on s'y approprie, que ça soit notre sécurité, que ça soit notre angle, que ça soit qu'on s'accroche à ça. Tu sais, des fois, on va dire à quelqu'un qu'il y a de la peine, qu'il y a de la difficulté, puis tout ça, on sait pas quoi dire. Juste ouvrir ça puis lire ça, là. Pas besoin de dire d'autres choses, là. Puis on prie. Seigneur, ouvre-moi les yeux sur ça. Ça, c'est la réalité, là. Ça, là, c'est la réalité d'un enfant de Dieu. Ça décrit l'état des choses pour tous les enfants de Dieu. Puis ça couvre tout, là, d'éternité en éternité. Il n'y a rien qui est oublié, rien qui est échappé. Pour ça, je dis, c'est le sommet de la rédemption. Tu sais, quand Dieu, il nous sauve, on est racheté, ben c'est tout ça que ça couvre, là. Toute l'expérience humaine de toute éternité, de tout bord, de tout côté. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment le sommet de la révélation de Romains et puis de la rédemption. Moi, je trouve ça vraiment super. J'ai goût de pas en venir, ben je pense qu'on va faire une conclusion d'une heure et quart juste parce que j'en reviens pas. Non, mais c'est extraordinaire. Puis juste pour vous dire là-dessus, la Bible nous parle dans, ben c'est Pierre, dans 2 Pierre, qui nous parle, faites attention, là, prenez garde pour ne pas être entraîné par l'égarement des impies à ne déchoir de votre fermeté. OK? Ça peut arriver, justement. Tu sais, on vit des choses avec des gens hostiles au travail, avec des circonstances difficiles, d'un coup qu'on n'avait pas vu venir. OK? Puis on peut déchoir de notre fermeté. On peut être entraîné par l'égarement des impies. Mais quand ça dit par la suite, la conclusion, le dernier verset de 2 Pierre au chapitre 3, ça dit « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ben c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est ce que vous êtes. C'est ce que Dieu a fait de vous. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Grandissez là-dedans. Que Dieu nous ouvre les yeux. C'est Dieu, c'est ce qu'il a fait de nous. C'est comment Dieu est dans notre vie. Qu'on grandisse là-dedans, dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, une dernière chose peut-être. Certainement que la vie chrétienne est inconfortable à plusieurs égards. C'est-à-dire, si on veut vivre la vie chrétienne, puis on pense avec l'évangile de la prospérité, là, c'est vraiment un autre évangile, là, parce que la vie chrétienne, historique, biblique, c'est vraiment pas dans la zone de confort. Là. On parlait des patriarches, là. Abraham, Isaac, Jacob, puis David, ils ont vécu, ils l'ont eu pas facile, là, puis tout ça. Ils sont mis eux-mêmes dans le trouble à plusieurs égards, mais aussi, ils ont été éprouvés. Mais c'est parce que Dieu faisait son œuvre. Et Dieu, c'est ça qu'il fait. Il nous sort de la zone de confort pour qu'on expérimente, qu'on aille par la foi dans sa zone de réconfort. Et c'est ça, aujourd'hui, on a vu le réconfort que donnent les Écritures, l'espérance, la consolation que donnent les Écritures. Et ça, c'est pour le concret du quotidien. C'est quand on a de la misère qu'on arrache. C'est notre trésor. Tu sais, on a lu ici, ça, c'est la révélation écrite de Dieu. Mais ça nous montre, hein, dans nos cœurs, que c'est le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu qu'on connaît. C'est vraiment ça qui est si précieux par rapport à ça. Ça nous révèle notre Dieu. Oui, Sébastien?
La version seconde, 78, là, la colonne, donc, la Bible de la colonne, qui dit, verset 39, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature.
Non, c'est ça. C'est pour ça que ça dit autre créature. Donc, ça a rapport à la création, dans le fond, tout ce qui pourrait s'attaquer à nous d'une façon ou d'une autre. Ouais. Oui, Christina?
Mais moi, ça me fait penser au message en personne. Parce que c'est tout là-dedans, le verset 37, mais si on mettait même le brisement ne peut pas nous séparer de Dieu. Puis, mais pourquoi ça ne peut pas nous séparer? Ça me fait tellement penser à notre union avec Christ. On est unis pour la vie.
Amen.
Donc, c'est impossible. Donc,
c'est une union indissociable.
C'est ça, on est unis à lui pour la vie. Même dans notre brisement, nous, on peut se détourner de lui. Mais lui, il va tout le temps être là. C'est impossible qu'il va avoir une séparation.
Ouais.
Mais amen. Nous, on peut, quand on manque de foi, de se détourner. Puis regarder ailleurs, mais lui, il est toujours fidèle, il va rester là, il attend qu'on revienne à lui. En tout cas, pour moi, c'est
juste ça. Mais ça fait penser à quelque chose cette semaine en regardant les Écritures, puis tout ça, puis en méditant sur des choses. Tu sais, des fois, on trouve que la doctrine de notre union avec Christ, on dit, voyons, je la ressens pas. On dirait que c'est pas vrai parce que je la ressens pas. C'est un grand ennemi à notre foi, nos émotions. Tu sais, puis les émotions, c'est beau, ça vient de Dieu, là. Mais c'est pas ça qu'il faut qu'il dirige notre vie, parce que c'est bien trop instable, là. Fait que des fois, on se sent pas unis, on se sent pas plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, c'est pas grave. Ça défait pas la réalité qu'on est unis à Christ. C'est ça. Tu sais, on le sent pas tout le temps, puis on le voit pas tout le temps avec les yeux de la chair. Mais c'est pas grave, c'est la réalité pareille.
Christ nous définit.
Christ nous définit, ouais. Amen. Amen, amen. Je vais prier. C'est merveilleux, Seigneur. Ta parole est vivante et réconfortante. Tu te révèles, Seigneur, d'une façon extraordinaire. Et là, vraiment, après-midi, on avait la totale. C'était vraiment l'un des plus beaux passages d'Écriture. Ta parole est toute, c'est toute la parole de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Mais il y a des passages comme ça qui ont une valeur spéciale à cause de tout ce que ça représente dans ton grand plan éternel. Et vraiment, on a vu le sommet, on a vu la culmination. Puis c'est merveilleux, on peut y retourner quand qu'on veut. On peut chérir ces choses dans notre cœur comme un trésor. Parce que c'est la vérité. C'est ce que toi, tu déclares. Et Seigneur, c'est tellement réconfortant. C'est rassurant. Et merci, Seigneur, pour ça. Je prie de bénir ces vérités dans nos cœurs. Sois avec chacun, Seigneur, cette semaine. Tu connais ce qui est en avant de nous autres. Tu es déjà là. Et merci que dans tout ce qui va nous arriver, il n'y a rien, non seulement rien peut nous séparer, mais encore mieux, tu veux te rapprocher de nous avec ces choses. N'importe quoi qui nous arrive, tu les envoies pour te rapprocher de nous, pour te révéler à nos cœurs, pour nous montrer qui tu es. Oh, merci pour ça, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prier.